Plonger dans le lac Léman, c'est un peu dérouler le fil de l'histoire. Il y a 250 millions d'années, il n'existait pas. La collision des continents, la formation des Alpes lui ont donné naissance. Avec ses 580 km² de superficie, ses 72 km de long et 14 de large, il est le plus grand réservoir d'eau potable d'Europe occidentale. Depuis la préhistoire déjà, l'homme navigue sur ses eaux, relie ses rives. Au Moyen-Âge, la navigation sur le Léman augmente. Les mariniers transportent principalement du bois et des pierres de construction, mais aussi du vin, des céréales, du fromage et du poisson. C'est l'âge d'or de la piraterie. Les brigands détroussent et rançonnent les bateaux malgré la surveillance des châteaux à Ouchy, Hermans, Chillon ou Ripaille. Au XIIIe siècle apparaissent les galères. Coques effilées, armées d'un éperon pour aborder l'ennemi par le travers. Mais ces embarcations militaires dont se sont dotés les Savoyards, faute de les protéger d'ennemis inexistants, leur permet de piller villes et villages. La flotte sera anéantie lors d'un immense incendie qui détruisit la moitié de Villeneuve. Bien des histoires sombres ou rocambolesques se sont déroulées ici, tout près, sur les rives ou au large. Au XVIIIe siècle, les pirates du Léman ont continué leurs œuvres. On pense à Dantal, qui subtilisa au banquier genevois toute la solde de l'armée française d'Italie, comprenant 5 caisses de 20 000 louis d'or chacune, qu'il dépensa à loisir après avoir pris la fuite en voilier. D'autres eurent moins de chance et finirent sur l'échafaud. Aujourd'hui, les embarcations servent principalement à la navigation de plaisance. Les pirates ont disparu, les combats se sont transformés en joutes sportives. Car le lac Léman demande de l'expérience. Ce n'est pas un plan d'eau tranquille, il reste imprévisible. Ces coups de vent sont redoutés et redoutables. On en compte plusieurs dizaines, telles que la bise ou le vent d'ouest, la Vaudère, le Bornand ou encore le Rebat ou Séchard. Ces creux pouvant atteindre les 2 mètres donnent du fil à retordre aux meilleurs barreurs. Combien de bateaux ont-ils sombré par la main de l'homme ou par la faute des éléments? On ne le saura sans doute jamais. Le lac recèle quelques trésors, des épaves, tels que le bateau à vapeur le Rhône, qui gît à 300 mètres sous la surface. C'est par un temps houleux et un fort vent d'ouest que la tragédie se noue en ce jour de novembre 1883. Une terrible collision se produit dans l'obscurité entre 2 vapeurs, le Rhône et le Cygne.
Le 23 novembre 1883, il est 17h30, il fait sombre. Il fait mauvais temps, il y a des vagues. Le Rhône quitte Évian pour Ouchy, il est à l'heure. Le Cygne, qui vient de Vevey pour aller à Évian lui aussi, est en retard. Parce qu'il doit pomper. Il repartira d'Évian avec un quart d'heure de retard. Au début, le capitaine décide de ne pas aller à Évian, mais à Thonon, pour être davantage face aux vagues. Il prévient les passagers à qui ça ne convient pas descendent du bateau. Le Cygne part pour Thonon, donc les bateaux vont se croiser. D'après les articles de l'époque, on lit que le capitaine du Cygne, comme le temps s'améliore, décide d'aller tout de même à Évian et change sa direction. Donc, il oblique sur sa gauche. Là intervient une part de mystère, puisque les textes nous disent que un passager voit que le Cygne va passer sur bâbord et que la distance, bien que insuffisante, permet au bateau de se croiser. Puis ce passager dira que subitement le cygne change de direction et fonce sur le Rhône. À ce moment-là, la collision est inévitable. Le cygne s'enfonce dans le Rhône de peut-être 1 mètre ou 1,50 m.
Gilbert Payet est un passionné. Et pour cause, c'est lui qui a découvert le Rhône il y a plus d'un quart de siècle.
Toutes nos découvertes viennent du fait que un jour, j'ai eu envie de faire de la plongée sous-marine. J'ai toujours aimé l'eau. J'ai nagé certainement très rapidement. Puis j'ai fait de la voile. Un jour, j'ai eu envie de faire de la plongée. Et par la suite, j'ai constaté que on allait assez souvent aux mêmes endroits et mon envie de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre, n'était pas satisfaite. Cette envie de découvrir d'autres choses, d'aller plus profond, m'a amené à l'idée de développer un matériel, en l'occurrence un robot. Il a toujours été connu que l'épave du Rhône existait, même du temps où je faisais de la plongée. Et dès le moment où j'ai commencé à développer ce robot, l'idée de découvrir le Rhône est revenue.
Avec des moyens très modestes, Gilbert Payet réussit à construire un robot capable de descendre à 300 mètres au fond du lac et de ramener les premières images du vapeur. Mais ça n'a pas été si simple.
Pour débuter les recherches, il faut avoir une idée de l'endroit où chercher. Donc, il faut mettre ensemble les éléments dont on dispose. L'un d'entre eux était que le cygne aurait mis une quinzaine de minutes en marche arrière. Ça donne une idée de la distance possible. D'autres textes disent au milieu du lac. On sait que le cygne devait aller à Thonon, puis ira quand même vers Évian. Ça permet de tracer des lignes. À partir de ce moment-là, on cherche avec un éco-sondeur et il s'agit de naviguer en zigzag de la façon la plus précise possible. La patience ou la chance aidant, on finit par arriver sur l'épave. Comme on est en train de chercher et de chercher depuis passablement de temps, au moment où le sondeur dessine une bosse, c'est évidemment une certaine émotion parce que à cet instant-là, on a trouvé quelque chose. On ne sait pas qu'il s'agit d'une épave, mais une bosse est une anomalie vu que le fond du lac est normalement tout à fait plat, ce qui fait qu'on stoppe, on tâche de repasser à 90 degrés. Si on n'est pas exactement dessus à la deuxième fois, on passe une fois à 45 degrés, ça amène une fois à passer exactement dessus. À ce moment-là, avec le bateau et le robot, on descend pour aller voir ce qu'on a trouvé. La descente prendra une quinzaine de minutes. On arrive sur quelque chose. On ne voit pas au premier abord ce dont il s'agit. C'est une grande masse sombre. La caméra à l'époque est en noir et blanc. On approche, on devine des choses connues comme les bits d'amarrage. Puis on constate qu'on se trouve sur l'avant d'un bateau à vapeur. À ce moment-là, on sait qu'on est sur l'épave d'un grand bateau, mais comme on n'a pas encore vu le nom, on n'est pas certain qu'il s'agit du Rhône.
Il faudra plusieurs plongées pour confirmer le nom du bateau. Les explorations sont menées par Gilbert et Michel Payet. Divers relevés sont dressés sur la base des images filmées en vidéo par le robot sous-marin. Des images qui vont leur permettre de commencer à mieux comprendre ce qui s'est réellement passé ce soir-là et étayer les témoignages de l'époque. Dans le Nouvelliste vaudois du 27 novembre 1883, on peut lire l'histoire d'un des 9 rescapés de ce naufrage.
Le temps était mauvais, la nuit obscure. Le Rhône roulait passablement en quittant Évian. Le pilote faisait des relevés afin de substituer le tangage au roulis. En approchant du point où le Rhône a l'habitude de croiser le Cygne aux deux tiers du parcours Évian-Ouchy, l'équipage du Rhône tentait d'apercevoir le bateau venant en sens inverse. Le Cygne ne suivait pas la trajectoire réglementaire. Tout à coup, j'eus l'impression que le bateau, fasciné par l'éclat des feux du Rhône, prenait notre malheureuse embarcation pour objectif et se ruait sur elle volontairement et follement. On courait à l'avant en criant « Arrêtez! Arrêtez !» Le choc était inévitable. Le craquement qui en résulta fut sinistre et significatif. Un éclair de réflexion me fit supposer que le Cygne qui avait frappé de l'avant devait être moins avarié que le Rhône frappé au flanc. Mon parti fut aussitôt pris, je courus à l'avant, enjambai le bastingage et passai à bord du Cygne.
En se libérant du Rhône, le Cygne agrandit la brèche et le Rhône coule en quelques minutes. L'essentiel des passagers était embarqué à l'époque à l'intérieur du bateau. On appelait ces bateaux des cargos mixtes parce qu'ils transportaient des marchandises et mixtes parce qu'ils transportaient aussi des passagers. Mais les passagers à l'époque, ils allaient, si le temps le voulait, dans le bateau.
9 des 20 passagers, le capitaine et un mécanicien du Rhône, embarquent sur le Cygne, lequel parvient à regagner Ouchy malgré son avant arraché. 11 passagers et 3 membres d'équipage du Rhône sont portés disparus. Ce terrible naufrage va occasionner son lot de tragédies individuelles. La mère et la sœur du capitaine du Cygne qui étaient à bord du Rhône ce jour-là disparaissent engloutis avec le bateau. Le chauffeur du Rhône refuse de passer sur le Cygne. Il se jette à l'eau avec une bouée. On ne le retrouvera jamais. Comme sur le Titanic, une romance se jouait à bord. Un couple de jeunes mariés auvergnats sont aussi embarqués ce jour-là. Après le choc, le mari parvient à passer à bord du Cygne en emmenant une autre femme qu'il confond avec son épouse. Au-delà de leurs vestiges, les épaves témoignent de notre relation avec le monde des eaux, de ses dangers et des entreprises des hommes pour les conjurer. Ne dit-on pas que les bateaux ont 3 vies ? La première, la plus rapide, lors de leur construction. La seconde, la plus gaie généralement, lors de leurs années de navigation. Et la dernière, la plus terrible et la plus longue, lorsqu'ils sombrent et sont devenus des épaves. Les opportunités de plonger sur les épaves profondes sont très rares. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de les documenter, autrement dit, de conserver des copies de toutes les images ou films réalisés à propos de ces sites. Les épaves sont des sites classés par les cantons et en principe, leur accès est limité. Si vous avez la chance de plonger et de les découvrir, nous vous serions très reconnaissants de remettre une copie de vos documents au musée du Léman afin que des chercheurs puissent également les étudier. Des photographies parfois mineures révèlent des détails majeurs. Ce guide audio a été réalisé grâce à la participation de Karine Bertola, conservatrice du musée du Léman. Un grand merci à Gilbert Payet d'avoir partagé sa passion. La cloche du vapeur Le Rhône, prélevée en 1998 avec l'accord des monuments historiques du canton de Vaud, a été offerte par son découvreur au musée du Léman, où vous pouvez toujours l'admirer.